Bonjour et bienvenue à ce vendredi, voilà, de regards croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah. Bonjour.
Bonjour Arlette. Encore un vendredi froid. Hein.
Oui.
Oui. Bon, je veux plus.
Étant donné que c'est un constat un peu nul, étant donné qu'on est au mois de février, on peut pas non plus s'attendre à avoir plein soleil, Fulgence.
Non. Pour moi, c'est pas nul. Comme tu le sais, je suis très frileux. Okay. Voilà. Le froid, c'est pas trop mon truc. J'ai pas dit l'hiver. L'hiver, c'est autre chose.
On va avoir un vendredi quand même assez, une heure assez cool. Tu vas nous parler de quoi ?
Oui, moi je vais parler de la disparition de la grande actrice afro-américaine Cecily Tyson qui nous a quittés hier à l'âge de 96 ans. 96 ans parce qu'elle est née en 1924, bien sûr.
Belle vie.
Si on était arrivé en décembre, elle allait avoir 97. Ouais, elle est morte début 2021, donc c'est 4 ans tout. C'est toujours 96 ans.
Et, d'accord. Voilà. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Eva Emaizen qui va nous parler de sa chronique des stupidités, dont je ne sais pas du tout quel sera le sujet. Comme d'habitude, ça va être la surprise du jour. Alors, restez avec
les
nous.
Les historiettes d'Eva. Alors, ok, on va aller en musique là tout de suite.
Oui.
Avec Bon Enfant et Liszt. Ah, avec la pièce,
Liszt
bien sûr.
Noir.
Liszt noir. C'était Bon Enfant, Liszt noir. Voilà, comme je l'ai annoncé en début d'émission, je vais parler de la disparition de cette grande actrice qu'on a vue sur tous les écrans, dans les grandes salles de cinéma et tous les écrans de télévision, bien sûr. Elle n'a pas fait 2, 3, 4 films, mais c'est des centaines de films. Voilà, grand cinéma, une cinquantaine, soixantaine, sans compter les séries de télé qui sont au-delà aussi d'une cinquantaine, soixantaine. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, j'ai tenu à parler de ça. Et puis, c'est une grande militante. Elle nous a quittés hier, jeudi.
Oui.
Le 28. Née le... Voilà.
Tu vas en parler, mais j'avais envie de faire un petit trait d'humour, non pas sur son décès, Dieu bénisse qu'elle aille, mais je la connaissais plus parce que à cause de Miles Davis, qui a été son mari, donc c'est plutôt comme ça que je l'ai
connue. L'un de ses maris. Voilà, elle n'a pas été mariée une seule fois. voilà. Oui, ils étaient ensemble. Je vais en parler d'ailleurs. Il avait mis une de ses pochettes, deux de ses albums, là, oui. Ouais, d'ailleurs. Donc, elle nous a quittés hier à l'âge de 96 ans. Oui. Oui, c'était.
C'est un bel âge pour partir.
Oui, un bel âge. Mais ils n'ont pas précisé de quoi elle est morte. Je ne sais pas si elle souffrait d'une maladie. Mais on ne sait pas du coronavirus. Attention, ne mettez pas sur le dos, tout sur le dos du coronavirus.
Il l'aurait dit si jamais c'était ça. Voilà. Elle a joué jusqu'à la fin, presque. Elle a joué presque, très très longtemps.
Presque. J'arrive avec la liste de ses films. J'arrive, tu es pressé, toi.
Non, mais c'est une question. On ne va pas lister tout ce qu'elle a fait.
Je vais citer les dernières années, les premières années, ça c'est clair. Et puis, elle était décustée, c'était une mannequin. Elle était mannequin, et puis c'est un photographe du magazine Ebony qui l'a découverte d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle a fait son entrée dans le milieu du cinéma, de la scène. Voilà, et puis modèle, devenue populaire. Son premier rôle arrive en 1956. Waouh, j'étais même pas encore né. Donc en 61 déjà, elle se rase la tête pour jouer dans la pièce de Jean Genet, Les Nègres.
C'était la première à se raser la tête, non?
Oui. Ouais.
C'est juste une...
Jean Genet. Oui. Donc, jouer off Broadway d'ailleurs. Et puis la poète Maya Angelou aussi est produit également là, durant ce genre de truc. D'événements, et puis alors que la mode est aux cheveux lisses de femmes blanches, elle a conduit d'autres afro-américaines à l'imiter. C'était à l'époque. Et pour faire partie de la clique, il fallait avoir les cheveux lisses comme les femmes blanches. Elle n'avait pas le droit d'être là avec sa coupure afro ou bien ça cheveux crépus. Oui, non, ça passe pas. Ça
oui,
passe
oui
pas.
Mais de se faire raser la tête, il faut avoir un beau crâne.
Ça c'était pour le rôle.
Il faut avoir un beau crâne aussi.
Non, ça c'était juste pour cette... Et puis après ça, maintenant, c'était les cheveux lisses. D'ailleurs, qu'on voit à la tête de toutes les femmes noires de cette génération. Bon, la nouvelle génération aussi, il y a beaucoup qui le font. Parce qu'on a fait comprendre que les cheveux lisses des femmes blanches, c'était la beauté universelle. Alors,
aujourd'hui. On n'est plus là-dedans aujourd'hui.
Ah oui, mais 80% des femmes noires que tu rencontres dans la rue, elles ont les cheveux lisses.
Mais c'est parce que c'est leur bon vouloir, parce qu'elles le veulent. Ouais. Mais c'est tout, c'est pas une obligation, c'est plus une obligation aujourd'hui.
Ouais, mais je sais pas pourquoi elles le font, c'est la question que je me suis posée, je me pose de temps en temps aussi.
Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles? C'est parce que ça te fait plaisir.
Non, mais pour les cheveux, c'est autre chose. Parce que son histoire, cette histoire de il faut paraître comme les autres, sinon tu n'es pas accepté, ça vient de très loin, ça vient de l'esclavage. Donc, elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice durant la 45e cérémonie des Oscars en 73 pour son rôle dans Sounder de Martin Ritt. Voilà. Et puis en 74, elle apparaît dans le film de Autobiography of Miss Jane Pittman, dont elle joue le rôle. Titre qui lui fait arracher un Emmy de la meilleure actrice d'ailleurs. Voilà, et puis en 2018, elle reçoit un Oscar d'honneur lors de la cérémonie des Governor Awards. Elle devient ainsi la première actrice afro-américaine à recevoir ce prix dans cette catégorie. Voilà. Et puis, coup de foudre, grande rencontre avec le grand Miles Davis, le grand trompettiste.
Quelle chance!
J'ai eu la chance de le voir sur scène à l'époque en Europe. Voilà, j'ai dit dans ça. Al Jarreau aussi, j'ai eu la chance de le voir sur scène. Alors, le grand trompettiste de jazz, Miles Davis, qu'elle fréquentait depuis 70, en 81, c'est-à-dire combien? 9 ans plus tard, il s'est marié, 81, 70.
11
ans, non?
81.
Oui.
Ça fait 11, oui. 70, 81, ça fait 11.
Ans plus tard, ils se marient.
Ça fait rien, on te pardonne le calcul mental, c'est pas grave. Donc ils sont restés presque pratiquement, pas tout à fait, mais presque 20 ans ensemble. Ça fait quand même une grosse partie de vie.
Oui, ils se sont séparés. Comme homme qui a fait partie de sa vie. En 88, c'est là comme ça qu'ils sont séparés. 18 ans, 18 ans de vie commune, 18 ans.
C'est beau.
C'est beaucoup, voilà. Et puis d'ailleurs, il a mis, publiquement... Voilà, sa photo ou bien je ne sais quoi, sa caricature sur un de ses albums pour dire que oui, c'est la mienne, elle est avec moi, n'allez pas la toucher. C'est... Voilà, bon, c'est son histoire, et quand je vois un peu la liste des films dans lesquels elle a joué, sincèrement, Arlette, j'ai le tourné, comme on dit, j'ai compté, dernièrement même, elle a fait une entrevue avec, en 2000, combien là, 2020, ouais, c'est tout nouveau, Tourist 2D, c'est une série télévisée d'ailleurs, Miss Lumali Nixon, elle joue encore là, en 2020, l'année passée.
Mais c'est ce que je t'ai dit, elle a joué jusqu'au bout, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que moi, ce qui me séduit, enfin, ce qui me séduit le plus et que je trouve fabuleux, c'est d'avoir pu encore jouer à cet âge-là, d'avoir gardé sa tête. C'est vraiment extraordinaire.
Oui, 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 oui. Même en 2019, elle faisait partie de Madame Secretary, série télévisée d'ailleurs de Flo Avery. Tout ça, même, quand j'ai vu la liste, je me suis dit, waouh, et sans compter les séries télé, j'ai dit, ah non, c'est beaucoup. Les nominations, les awards, les Oscars, les téléfilms, les séries télé. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. Allez-y sur Google, Wikipédia, vous allez trouver tout ce qu'elle a remporté là-bas, tout ce qu'elle a dans les films dans lesquels on la voyait, on pouvait la connaître. C'est vraiment, c'est l'oiseau bleu, le cœur est un chasseur solitaire, le coup de l'escalier en 59, voilà, et puis quoi encore là
Dans les années 90, quoi, Beignet de tomates vertes
Oui, en 91, oui, Beignet, ouais, de Fried Green Tomatoes, là, oui. Ah, et puis des Seigneurs de Harlem. Et de Hoodlum, le titre de Bill Duke de Stéphanie Sinclair d'ailleurs, et puis vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Bon, là, je dis paix à son âme, oui, que la terre lui soit légère.
Bien sûr.
Elle a vécu sa vie quand même 96 ans. C'est pas nous tous qui allons arriver là. Hein. Bon, surtout, on dit qu'on vit de plus en plus longtemps de nos jours.
Mais... On n'en sait rien.
Oui, on en sait. Bon, on m'aurait dit à mon jeune âge que je suis centenaire. Voilà, je sais pas, je vais vivre jusqu'à 100 ans, mais j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans en forme, mais pas malade dans un centre de personnes âgées où je suis plus capable de mettre une cuillère de nourriture dans ma bouche. Allez, on va aller en musique. Oui. Arrête, un peu de musique.
Avec Miles Davis. Ah, super. Thank you.
Miles Davis, Jero. Ouais, ça c'est le grand Miles. Waouh, j'ai oui. encore c'est là, cette scène, ce visage, cette image de ce monsieur que j'ai eu la chance de voir sur scène d'ailleurs. Et
oui.
ouais, c'est monsieur. Hein. Ouais,
ah c'est... oui, oui, oui. Très, très, très intéressant. C'était un de mes grands moments aussi.
Ouais, ouais, ouais. Alors, je voulais dire quelque chose avant de finir avec cette histoire, cette disparition de cette grande actrice.
Oui.
Il y a. Elle venait d'être interviewée il y a quelques jours d'ailleurs sur CBS hein, pour la sortie de ses mémoires Just I Am. Juste, je suis ce que je suis.
Ah.
Ouais, quelques jours. Et puis, le compositeur Quincy Jones qui lui a rendu un hommage ému. A tout simplement, il a dit, Cecily Tyson a tout simplement ouvert la voie à plusieurs générations d'actrices comme Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis ou Lupita Nyong'o, laquelle a reçu en 2014 un Oscar pour 12 Years Slave. Tu vois, c'est une femme qui a ouvert la porte, qui a tracé le chemin, elle a servi d'exemple à beaucoup de... femmes noires là-bas aux États-Unis qui ont pu faire leur chemin. Ah, je ne savais pas que... Whoopi Whoopi est encore dans le décor.
Oui.
Voilà, une émission de télé. voilà. Je vais parler un peu... je finis. Bon, paix à son âme et que la terre lui soit légère pour tout ce qu'elle nous a pu... Elle a pu nous servir sur les grands écrans. Arlette, je vais parler un peu de cerveau et de psy.
Ah.
Oui. Être en désaccord mobilise beaucoup de ressources cognitives différentes. Ça, c'est... C'est l'université américaine de Yale qui montre qu'être en désaccord avec quelqu'un au cours d'une conversation mobilise davantage de ressources cérébrales que quand les deux interlocuteurs sont sur la même longueur d'onde. Mmh. Oui. Donc, ça parle un peu des systèmes neuronaux qui sous-tendent le langage humain, sont de mieux en mieux connus et compris par les neuroscientifiques. J'espère qu'ils arriveront un jour à nous dire pourquoi... On s'énerve, pourquoi on se met en colère, c'est dû à quoi, quels sont les voilà. C'est une question qui reste encore à creuser par la communauté scientifique. Hein. La façon dont les mécanismes s'adaptent selon le contexte social dans lequel des conversations naturelles ont lieu, il est souvent important de comprendre comment fonctionne notre cerveau par exemple lorsqu'on est d'accord ou en désaccord avec d'autres personnes, avec une opinion. En particulier dans un environnement politique polarisé. Tu vois. Donc, en tout cas, c'est l'avis de la professeure Joy Hirsch de l'université Yale aux États-Unis. Son équipe et elle ont observé l'activité cérébrale de plusieurs binômes personnes pendant qu'ils discutaient de sujets nécessitant d'avoir un avis, par exemple, la peine de mort devait être interdite. Les résultats publiés dans la revue Frontier for Human Neuroscience indique qu'une différence majeure d'activité selon les interlocuteurs était en accord ou non sur les thématiques abordées. Le désaccord mobiliserait davantage de ressources cognitives. Alors, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Quand je pense à moi personnellement, quelqu'un qui essaie de me convaincre parce que je ne suis pas du même bord que lui, je vois son effort qu'il émet avant de... d'essayer de me convaincre. Moi, j'écoute, je regarde la personne ou bien ce quelqu'un là ou bien cette quelqu'une et puis tu te dis ok, pourquoi il veut à tout prix que je sois d'accord avec lui ou bien pourquoi elle veut à tout prix que je sois d'accord avec elle. Je vois l'effort. Alors que quand on est d'accord, au fait, il n'y a pas d'effort à faire. Qu'est-ce que tu en penses, Arlette? Sur un point de vue,
oui, enfin, j'ai pas de point de vue là-dessus. Moi, mon point de vue, c'est pas les scientifiques qui vont amener des solutions. C'est pas l'extérieur qui nous amène des solutions. C'est nous à l'intérieur qui devons changer pour amener du changement et des solutions quand on change notre vibration, qu'on s'écoute plus. Enfin, je crois à des choses différentes quoi, de ça. Pour moi, la solution ne vient pas de l'extérieur. Donc,
on ne parle pas de solution. C'est un constat qu'ils font. Que les gens,
oui.
Quand les gens sont en désaccord sur quelque chose...
Après, le désaccord peut être amené parce que... C'est quand je te dis venir de l'intérieur, c'est comment toi tu le ressens, tu travailles sur ton ressenti.
Oui.
Si t'es vexé, c'est ton ressenti. Si ça vient chercher quelque chose chez toi, c'est ton ressenti. Mm-hmm. Si ça vient rien chercher, c'est ton ressenti. Je veux dire, chacun a le sien et doit travailler sur
c'est
lui.
Ça, c'est ce qui fait qu'ils ont fait cette expérience sur plusieurs personnes
voilà,
pour voir les différences
ça.
De réaction selon
c'est,
les... Voilà.
C'est comme ça. Ouais.
Voilà. Donc, ils avaient recruté 38 participants et qui avaient été demandés de renseigner leur avis sur une trentaine de sujets considérés comme controversés.
Voilà. Y compris la peine de mort, c'est ça ?
Oh oui, parce d'accord. qu'il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour la peine de mort. Il y a des gens qui disent, si, il y a des gens qui commettent des crimes vraiment violents, ça c'est la peine de mort. Il ne faut pas du tout les pardonner, non. Même 10 ans de prison, 15 ans, 20 ans, 50 ans de prison. Non, la peine de mort. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi est-ce qu'on peut même le condamner à 50 ans de prison, le laisser pour lui donner une deuxième chance. Là, la personne qui essaie de convaincre l'autre fait beaucoup, met beaucoup plus d'efforts pour essayer de convaincre en disant, voilà moi mon opinion, voilà comment je soutiens mon opinion, alors que la personne qui écoute est beaucoup plus zen, elle n'a rien à défendre. Hein. De toute façon, on ne fait qu'écouter.
Bon, oui, voilà, mais c'est ce qui fait que... je ne pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit malin de vouloir forcer quelqu'un à comprendre. Après, si l'autre comprend pas, bah il comprend pas, puis c'est tout. Si ça vient de chercher pour quelque chose, bah
bon, oui, y a des
tu
gens...
travailles toi personnellement sur toi. Mais c'est, oui, je sais qu'il
y a des gens qui forcent, voilà, qui essaient toujours après, de convaincre.
Voilà.
Ouais. Donc et puis c'est controversé, allant du domaine politique, environnemental, des questions éthiques ou philosophiques. Était-il tout à fait d'accord ou plutôt en accord, neutre, plutôt en désaccord ou totalement en désaccord. Tu vois, il y a toujours des degrés d'accord, de désaccord et autres, ou bien neutres. Oh, moi, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit remettre la peine de mort ? Oh, est-ce qu'on doit punir les gens qui traversent le feu rouge à donner une contravention ? Oh, est-ce que la police doit fermer les yeux là-dessus ? Voilà, moi, je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais fait. Oui, je sais, parce que j'ai eu une contravention. Attention, il ne faut pas le faire. Pas, tu vois, c'est des petites...
Oui, après, c'est plus la même chose. C'est plus nos réactions à nous. Ça fait partie des lois qui existent dans le pays. Tu respectes
c'est
les lois.
Tout un tout. Voilà,
ça, c'est plus pareil.
C'est tout un tout. Voilà. Et puis, avec la phrase « Les jeux vidéo sont toute une perte de temps », avec la proposition « Le cannabis devait être légalisé
ça... »,
oui ou non, les pour ou contre, tu vois.
Oui.
C'est les avis ainsi recueillis ont permis aux chercheurs de répartir leurs participants en un total de 18 binômes selon leur réponse. Donc au cours de la deuxième phase de l'étude, chaque binôme formé s'est lancé dans des conversations en face à face. Pendant que les scientifiques enregistraient l'activité cérébrale de chaque participant, grâce à une technique nommée imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle, qui permet de mesurer l'oxygénation d'une zone du cerveau pour en déduire son activité.
Bien.
Voilà, c'est vraiment... Donc, un orchestre symphonique interprétant des musiques différentes. C'est comme un orchestre... Ouais. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. Un orchestre symphonique interprétant des musiques différentes. OK. Et puis, lorsque les deux membres du binôme étaient en accord sur le sujet débattu, leur activité cérébrale était harmonieuse.
D'accord.
C'était l'harmonie totale. Il n'y avait pas de... Au niveau du cerveau, bien sûr.
Oui, bien sûr.
C'est pas physiquement au niveau de... Voilà, tu m'as fait ça. Voilà, non, c'était une manière... Non, ça, moi, je me suis dit, mais il faut en parler un peu, là.
Bon. C'était une bonne idée.
Une bonne idée. Bon, ils ont fait une belle recherche. Il n'y a pas de solution à trouver. Il faut trouver de solution. Parce que sinon, tout le monde serait d'accord sur tout. Tout le monde serait en désaccord sur tout, sur cette terre. Il n'y a pas... C'est une remarque, c'est une constatation, c'est une recherche qu'ils ont faite pour voir comment nos cerveaux réagissent. On va en musique ?
Allez, entendu. Ah, voilà. Avec ?
Cette fois-ci, avec Stray Cats, Rock It Off.
Most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey, you don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off.
some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it up, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The blue don't stand a chance when you get up and dance. Rock it up, brother, rock it off.
Super, ça fait, c'était dansant, moi ça m'a fait bouger sur ma chaise.
Non mais le rock and roll, ça a toujours été presque
dansant. Ne vous inquiétez dansant, pas, voilà. Je ne me suis pas levée pour danser.
Oui mais je t'ai vu, mais je t'ai vu danser.
Mais tu m'as vu danser.
Voilà.
Donc restez avec nous parce que dans la deuxième partie de cette émission, pour ceux qui connaissent, eh bien Eva Emaizen revient régulièrement pour nous raconter des chroniques sur les stupidités de la vie. Ce sont des chroniques que je qualifierais d'intelligentes, même de très intelligentes.
Oh yeah, donc les historiettes d'Eva.
Elle nous apprend des choses, c'est pas des historiettes, c'est des vraies chroniques de stupidité restez avec nous, on va la retrouver.
Eva, tu m'en voudras pas, tout de suite après.
Non, je suis sûre qu'elle va aimer. Alors restez avec nous, à tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
De neige, pis ce sera pas la dernière. Malgré nos salaires de misère, on va s'acheter une chaufferette. On pourra pauvrer les fenêtres, ça va sentir la cigarette. On va passer au travers, ma belle. T'as tes antidépresseurs, j'ai mon six-pack de Budweiser. Si la vie était faite pour rester seule, on vivrait pas sur la même planète. Ça a l'air que l'hiver va être frette, que ça va être le pôle nord dehors, qu'il va y avoir des morts de clochards, pis que les chèques vont se faire rares dans boîte aux lettres. En attendant que ça fonde, on va se fondre l'un dans l'autre, blottis dans l'ombre de notre petit semi-sous-sol. On va se tricoter des mitaines, des pantoufles, des petites laines pour s'en mitoufler le cœur. Camouflé dans le bonheur, on va apprivoiser nos peurs jusqu'à ce qu'on avance l'heure. Ça a l'air que l'hiver va être frette, mais on va passer au travers. On va combattre le bordel à grands coups de vaisselle, de batch, de sauce à spaghettes, pis de brasser de lavage. On va se rêver un deux semaines dans le sud, parce qu'on n'a pas de compte d'épargne. Le froid, le noir, la lassitude, ça va en prendre plus pour qu'on se sépare. Parce qu'on est fort comme un roc, nos poutres et nos solives, c'est pas du Jeep Rock. C'est nous le couple le plus solide dans le bloc. Ça a l'air que l'hiver va être frette, mais on va passer au travers. La poussière des défaites, le soleil qui apparaît après la verse va faire frette, mais on va faire avec. Pis si on se tape ses nerfs, on va avoir la sagesse de se taire. Avant de se lancer des assiettes par la tête, on va semer. On va se mettre et on va rêvasser. On va s'aimer sans jamais assez se le ressasser. On va s'entraider au lieu de s'entretuer. Ce que l'humanité a jamais essayé de faire, on va faire la fête. On va mettre carte sur table, on va se fendre en quatre. On va s'accoupler en poussant des cris de primates en cage pour calmer nos spasmes de rage. On va faire face à l'impact comme des kamikazes qui se crachent dans le World Trade de tes faxiles. J'ai ma King Can, accroche-toi. On va passer au travers, ma belle. La neige va neiger, qui va falloir en alléger le driveway. Patauger dans slot, j'ai pelleté de la poète à plein temps. Fait qu'en attendant le printemps, j'hiberne dans tes bras au repos. J'aime pas l'hiver, l'hiver m'aime pas. Mais toi, t'es mon ami, t'es mon abri, t'aimes pas.
Alors, on vient d'entendre le grand Slack qui nous interprétait « L'hiver va être fret ». Et tu veux que je te dise ? On le sait déjà. Eva, bonjour.
Bonjour,
Eva Meisen.
Bonjour,
bonjour,
Eva.
Bonjour, Fulgence.
Et puisque je ne t'ai pas encore entendu et je ne t'ai pas vu non plus, bonne année à toi.
Eh oui, bonne année à toi aussi, oui. À vous deux.
Ben nous, on se l'est déjà dit. Mais bon, on peut se le redire. Nous sommes le 29 janvier, donc ça
on
va.
On peut se permettre encore. Oui,
on peut se redire une deuxième fois. Oui. Alors, Eva, on va t'écouter pour ta chronique des stupidités que je fais de la délation tout de suite. Fulgence a appelé des petites...
Oui.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Des historiettes.
Des historiettes.
Et je me suis dit que ce serait les historiettes pas si bêtes ou la chronique des stupidités.
Voilà. C'est ça. Allez, on y va.
Alors, j'ai la réponse
à la question.
Voilà. Non, qui a la question ?
Ah
moi,
oui,
je ne l'ai pas.
Qui a la question ? Toi, tu as seulement la réponse.
Exactement. Et donc, aujourd'hui, on va aborder une réponse tellement connue qu'on se demande même pourquoi il existerait une question qui irait avec. Arlette, sais-tu ce qui a été construit il y a exactement 134 ans et un jour ?
Là, tout de suite, non.
Bon,
mais ça va devenir une évidence dans deux secondes
pas.
Et demie.
Moi non plus.
Essayez de vous souvenir. Voyons, où étiez-vous le 28 janvier 1887 ? Alors, toujours pas de réponse ?
Dans une autre vie, je ne sais plus.
Eh bien, c'est la Tour Eiffel. Eh oui.
Ah.
Eh oui, nous elle devrions... A... Elle a 134 ans
134
et un
ans.
Jour
d'accord.
Aujourd'hui. Et nous okay. devrions, comme le veut la tradition... commencer par la définition du Larousse, mais comme mon dictionnaire ne comporte que les noms communs, nous serons obligés de nous en passer cette fois-ci et j'en suis sincèrement désolée. Mais par contre, on va profiter de cette chronique pour faire un peu d'histoire autour du chantier de construction de cette si célèbre dame de fer. Arlette, sais-tu que la Tour Eiffel aurait pu s'appeler autrement et ça aurait été quand même franchement beaucoup plus rigolo?
Comment non ? Elle a pris le nom de son inventeur, son constructeur.
Eh ben oui, mais les gens du monde entier seraient venus à Paris pour voir le musée du Louvre, le Grand Palais, Notre-Dame, les restaurants renommés et la tour la plus visitée au monde, j'ai nommé la tour Bönigshausen. Ah oui, ça t'en bouche un coin. Comme tu dis, c'est le nom de celui qui l'a faite, parce que c'est vrai, à sa naissance, en 1832, Gustave Eiffel, fils d'adjudant d'origine allemande, a été enregistré à l'état civil sous le nom de Bönigshausen, dit Eiffel.
Ah ben dis donc, je ne le savais pas celle-ci.
Eh ben voilà.
Tu le savais, toi, Fulgence ? Oui, il le savait. Moi, je ne le savais pas.
Et Eiffel venant d'une région d'Allemagne d'où était originaire son grand-père. Et quand il a renvoyé un dessinateur industriel de son entreprise... Ce dernier, qui était assez mécontent, s'est vengé en l'accusant d'être un Prussien, un espion à la solde de Bismarck. Et comme les sentiments anti-allemands étaient très présents dans la société française, Gustave Bönigshausen...
Ah, c'est pour ça qu'il a changé de nom.
Eh ouais, il a fait effacer les origines allemandes de son nom et s'est fait inscrire à l'état civil sous le seul nom de Eiffel en 1877. Et c'est donc à quelques années près que la tour a failli ne pas s'appeler Eiffel. Bon.
Ah oh ben dis donc.
Eh ben voilà.
Ah ben je ne savais pas celle-ci, ouais. Tu vois ?
Mais ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais toute cette discussion autour du nom de Bönigshausen, où Eiffel est un peu absurde, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui a fait le projet de construction d'une tour de 324 mètres de hauteur. Ce sont deux ingénieurs, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, qui en ont eu l'idée en 1884, et c'est même Stéphane Sauvestre, architecte en chef des entreprises Eiffel, qui en a fait les plans. Donc Gustave Eiffel n'en a été que l'entrepreneur, mais c'est son nom qui est passé à la postérité.
Pourquoi ?
Parce que c'était les entreprises Eiffel, et donc voilà pourquoi.
Arlette,
et donc il y en a qui se sont fait avoir.
Arlette, demain, si tu fais construire ton entreprise, construit un pont là, tu veux qu'on mette le nom de Fulgence ?
On en parlera. On va la laisser finir et puis on en parlera après.
Ok.
Mais ce qui est aussi assez drôle et surprenant, surtout a posteriori, ce sont les réactions que la construction de la tour a suscitées. En fait, à peine le chantier commencé, le journal Le Temps, qui est l'ancêtre du quotidien Le Monde, a publié une protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel. Et parmi les signataires, on en retrouve Charles Gounod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, et même Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Voilà ce qu'ils disent. Nous protestons au nom du goût français, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps au baroque, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer? Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez pas, le déshonneur de Paris.
Oui, c'était pas le goût de tout le monde. C'est pas tout le monde qui était d'accord pour.
Pas vraiment.
Ouais.
Pas vraiment, puisque même d'autres écrivains avaient surenchéri en parlant du lampadaire véritablement tragique, que Paul Verlaine faisait un détour pour ne jamais avoir à croiser ce squelette de beffroi, comme il l'appelait, et même Huysmans, ce qui est assez drôle, qui l'appelait flèche de Notre-Dame de la Brocante. Et il y a eu même des procès des riverains du Champ de Mars à Gustave Eiffel. Mais enfin, toute cette chronique paraîtrait vraiment extrêmement franco-française si on n'avait pas retrouvé dans les archives personnelles du maire de Montréal, Jean Drapeau, le souhait de déplacer la tour Eiffel et de l'installer à Montréal pour l'exposition universelle de 1967. Ce n'était pas bien compliqué, il suffisait de déplacer cette structure de 7500 tonnes d'un continent à l'autre, et Paris a répondu que ça semblait difficile à réaliser car les fondations sont à 15 mètres dans le sol, qu'il y a 15 000 différents modèles de pièces qui tiennent ensemble grâce à des rivets, sans compter la nécessité de déposer, de reposer 3 ascenseurs. Paris a évalué le déplacement à 5 millions de dollars, sans compter les frais de douane, et a répondu très diplomatiquement dans une lettre qui a été retrouvée. « Bien sûr, nous vous la prêtons. Si vous pouvez garantir que vous préserverez l'intégralité des 60 tonnes de peinture, des 18 000 pièces de métal, des 2 500 000 rivets, que vous nous déménagez ça et que vous nous la remettez telle qu'elle. » Alors, devant tant d'obstacles, le maire de Montréal a préféré renoncer à l'aventure. Mais même s'il a abandonné l'idée d'un déménagement de la tour Eiffel, il a eu l'idée de construire une tour de 325 mètres de haut pour le 325e anniversaire de Montréal, c'est-à-dire un mètre de plus que la tour Eiffel. Bon, le projet ayant été estimé à 20 millions de dollars a malheureusement aussi été abandonné. Notre chronique nous a donc permis de traverser l'océan Atlantique, et si je ne vous ai pas fait la liste exhaustive de toutes les anecdotes concernant la tour Eiffel, et je vous garantis qu'il y en a un paquet, il me semble en tout cas que le plus absurde et qui nous aurait malgré tout paru parfaitement normal est que le grand phare de Paris aurait dû s'appeler la tour Bönigshausen, ce qui claque quand même un peu moins que la tour Eiffel. Cela aurait sans doute mis dans l'embarras bon nombre de Français qui sont, comme on le sait, assez peu doués pour la prononciation des langues étrangères. La tour Eiffel avait été conçue pour rester en place 20 ans et est toujours là, 134 ans et un jour plus tard. Ma chronique a été conçue pour durer 5 minutes et soyez assurés qu'elle ne durera pas une minute de plus et qu'elle est finie.
Quelle rigidité!
Sa vie fut mouvementée. chanter pour gagner leur croûte. C'est ce qu'ils avaient choisi, un destin sur la route. Entre eux et la Gaspésie, toute une vie à lauder, délauder, lauder, délauder, lauder, délauder. Rose avait produit des disques, composé quelques classiques. Jamais elle fut à la disque, malgré l'amour du public. Mais Rose ne s'en faisait guère, elle ne jouait pas la diva pendant que les modes passèrent. Le yodel ne change pas, toute une vie à l'auder, délauder, l'auder, délauder, l'auder, délauder. Vas-y mon Victor. Sa retraite, elle poursuivit les concerts pour vivre son rêve de fillette à la mémoire de son père. Sa voix n'était plus parfaite, mais Victor fut solidaire. Rose était toujours prête pour nous yodeler un petit air. Toute une vie à l'auder, délauder, l'auder, délauder, l'auder, délauder. Toute une vie à l'auder, délauder, l'auder, délauder, l'auder, délauder.
Alors, on vient d'entendre Dan Shed qui nous chantait Laudé, délaudé. Alors, Eva, tu es toujours avec nous.
Mais bien
écoute,
sûr.
Écoute, très, très belle chronique. Merci beaucoup. Mais en tout cas, pendant que tu as lu, j'ai noté des mots comme érection, sans les dire, déshonneur de Paris, procès. Je savais un petit peu, mais je ne me suis pas intéressée vraiment à l'histoire de la Tour Eiffel, qui fait qu'il y a des choses que j'ignorais, y compris que Jean Drapeau souhaitait déménager un monument pareil pour l'Expo 67. Je ne sais pas comment c'était dans sa tête, mais ça paraissait pas faisable.
Ben, c'était compliqué, oui. Je pense que c'était très, très compliqué. Mais ça vient d'être... c'est sorti il n'y a pas très longtemps, parce que c'était enfin les 50 ans des archives. C'est-à-dire, en 67, on a sorti les archives en 2017. Voilà.
D'accord.
Et, enfin, je pense que ceux qui étaient à l'époque le savaient. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire qu'on peut facilement la transporter. Mais j'étais... étonné du faible poids de la Tour Eiffel, d'ailleurs. Parce que 7000 tonnes, ça ne me paraissait pas... J'aurais imaginé...
Mais c'est pas moi, je trouve ça énorme.
C'est pas petit. Mais quand on pense qu'une voiture fait 2 tonnes, c'est pas monstrueux, quoi. Ça me paraît... Par contre, 18 000 pièces différentes, ça me paraît plus...
Oui.
Voilà.
C'est ça. C'est ça. 18 000 pièces de métal, ça fait peur. Et tout ce que ça aurait donné, parce que c'est vrai que c'est un monument qui est visité. Quand on vient à Paris, beaucoup de ceux qui arrivent à Paris pour la première fois visitent la Tour Eiffel.
Oui, c'est le plus visité au monde. Hein.
C'est le plus visité au monde. Je vais me reconnaître juste une chose, c'est qu'en tant que Française, je ne l'ai pas visité la Tour Eiffel.
Eh bien, je ne te félicite pas.
Non, je n'en ai pas eu envie.
Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, voilà.
C'est comme je connais quelqu'un ici... dont la maman vient de l'île aux Coudres, qui n'est jamais allée. Voilà, voilà.
Ici, ah, c'est beau, l'île aux Coudres. Tellement beau.
Sa maman vient de là, il n'est jamais allé dans le village de sa maman.
Ah, oui, oui, oui.
Ouais, je pense qu'on méprise ce autour. Enfin, c'est pas qu'on méprise, c'est qu'on est tellement habitué que pourquoi aller voir quelque chose qui est là, quoi.
Qui est là, voilà. On va chercher plus loin. Voilà.
C'est ça. Mm-hmm. C'est ça.
C'est-à-dire que ça fait partie des monuments, on va dire, à visiter à Paris. Qu'est-ce qui t'a. Alors, moi, j'ai une question pour toi qui sort un peu du cadre de la Tour Eiffel, mais comment tu fais ta recherche? Qu'est-ce qui te vient à l'idée? Pourquoi tu as été allumé par la Tour Eiffel et par cette histoire aujourd'hui? Parce que tu as lu qu'on avait, qu'il y avait eu des... Comment ça on en avait su un petit peu plus sur l'Expo 67, comment elle avait été préparée ici?
Voilà. Enfin, d'abord, je ne fais pas des recherches, je fais des trouves. Hein. Tu sais, puisque par définition,
J'aime ça, j'aime ça, j'aime cette réponse-là. Voilà.
C'est ça.
Mais c'est vrai que j'avais vu cet article sur Jean Drapeau et la Tour Eiffel, et donc je me suis dit que c'était assez étonnant comme idée et plutôt sympathique en plus. C'est complètement fou, mais ça a quelque chose de charmant. Et puis d'une exposition universelle à l'autre, pourquoi pas transporter quelque chose qui était là pour rester que 20 ans d'ailleurs à Paris. Et ensuite, je me suis intéressée à la Tour Eiffel et je me suis dit que c'était un truc qui était quand même... Parce que moi aussi, j'ai appris énormément de choses, que c'est Buffalo Bill, par exemple, qui était le premier visiteur officiel de la Tour Eiffel, avec la famille royale d'Angleterre. Voilà, des trucs, certes, qui permettent de briller dans les dîners en ville, après, quand on...
Est-ce que tu sais que Buffalo Bill était...
Mais ce sont des trucs qui sont de voir exactement tout ce que les écrivains, les musiciens, tous les penseurs, enfin une grande partie des penseurs de l'époque pensaient de la Tour Eiffel.
Oui.
Je trouve ça intéressant, comme on a toujours du mal à concevoir, de la même manière que ce que disait Fulgence sur l'environnement qui nous est familier, quand il y a quelque chose de nouveau, c'est souvent inacceptable. Je me souviens des colonnes de Buren à Paris qui avaient fait un scandale, enfin, ou de la pyramide du Louvre. Dès qu'on vient transformer un petit peu le paysage, les gens s'insurgent facilement.
Oui.
Mais en même temps, ce qui m'étonne, c'est que quand ils l'ont, dans tout le texte que tu as lu, là, quand ils ont dit que c'était tellement laid, que ça ne méritait pas d'être là, personne n'est revenu et pourtant... ça aurait pu aussi, après, plus tard, au sortir de la guerre, dire qu'on ne voulait plus de la Tour Eiffel parce que celui qui l'avait conçue ou inventée avait des origines allemandes.
C'est vrai, mais est-ce qu'on ne l'avait pas oublié depuis le temps ?
C'est ça.
Il y a combien de gens qui le savent, d'ailleurs ?
Ben, oui, la preuve, ici, avec 50%, toi, tu le savais, moi, je ne le savais pas. Donc, je pense que...
Je pense que c'est moins de 50%.
Oui. Mais c'est drôle qu'il n'y ait pas eu de recherche là-dessus, parce que quand tu veux détruire quelque chose, tu sais, tu fais des recherches sur...
Oui, mais détruire la Tour Eiffel, c'est compliqué quand même. Parce que c'est devenu un tel symbole français, un tel symbole de Paris...
Oui.
Même pendant la guerre, d'ailleurs, Hitler était devant la Tour Eiffel. Enfin, c'est une image qui est terrible. Cette manière de justement d'embrasser la France et de la gagner par le simple fait de se trouver devant la Tour Eiffel.
Oui.
Donc, c'était compliqué de dire bon ben maintenant, comme ça a été construit il y a près d'un siècle par un Allemand, détruisons ce monument.
Oui, c'est ça.
C'est pas simple. C'est vrai que quand on regarde objectivement, c'est pas très beau la Tour Eiffel.
Ah non.
On peut comprendre ceux qui s'en émouvaient à l'époque en trouvant que c'était quand même assez vilain.
Mais elle s'est donnée une beauté à travers nos regards.
Je ne trouve pas beau non plus, mais
ou une originalité.
Oui.
Quelque chose de...
Original, d'accord. Pas vu, mais on dirait que c'est descendu d'une autre planète. Bon, bah, enfin, ceci dit, en parlant de planète, on a terminé. Ah oui, moi, ça me donne vraiment l'impression d'une grosse bête qui est descendue d'une autre planète. Je la verrais bouger sur ses quatre pattes et avancer, ça ne me ferait pas plus peur. Donc, merci beaucoup pour cette chronique, Eva.
Merci, Eva.
Merci, parce que c'est toujours un grand plaisir. Et puis, sache que, moi, en ce qui me concerne, j'en ai appris. Et puis, du coup, comme à chaque fois... Tu me donnes le goût d'aller lire sur ton sujet, c'est-à-dire d'aller lire sur la Tour Eiffel et d'en savoir un petit peu plus.
Sur mon historiette.
Sur ton historiette. Comment t'appelais ça, une historiette de...
Pas si bête.
Une historiette pas si bête. Allez, ça sera parti pour la prochaine fois.
On met ça dans les annales.
Voilà.
Merci,
Eva. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement démissionnaire, professionnellement d'air. Et tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Vous dansez, mademoiselle.
Non mais ça va pas, non. Mais casse-toi là. Tu vois pas que tu m'importunes. Gros taré, va.
J'aurais pu être votre amant.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde.
Ouais, bah moi aussi je t'emmerde.
Vous dansez, mademoiselle.
Mais qu'est-ce qu'il veut, ce connard, hein? Je t'ai dit de te casser. Allez!
Enfin, mademoiselle, ne le prenez pas sur ce ton. Je suis un poète et je vous emmerde.
Ouais, poète, poète. T'emmerdes la terre entière, ouais.
Ouais, je suis un poète.
C'est pas vrai. Poète, poète, poète. Poète, poète. Et regarde-toi.
Allez. Emmerde.
Va-t'en. Allez, va-t'en. Sois gentil. Casse-couille.
Je suis déjà pas mal bu.
Qu'est-ce que tu veux? Et bouge!
Et voilà, on vient d'entendre Philippe Catherine qui nous chantait « Je vous emmerde ». Voilà, donc...
Heureusement que je ne le connais pas lui personnellement.
il aurait pu faire la réponse. Non, c'était drôle. Enfin, c'était une chanson qui était drôle.
J'aimais les réponses de la jeune fille qui lui répondait.
Oui, aussi. Donc, voilà. On arrive à la fin de cette émission.
C'est déjà fini?
Oui.
Oui.
Encore une fois, Eva Mizen, merci. Pour nous,
merci Eva.
De nous avoir cultivé peut-être à moitié pour Fulgence, mais moi sur la Tour Eiffel, parce que quand même, c'est dans
et
la capitale
plus,
de mon pays.
Tu l'as jamais visité?
Non, je n'ai pas eu envie, mais bon, ça va peut-être changer. Après tout, je ne suis pas encore partie, donc
j'aurais peut-être... Non, tu as encore un bout du voyage à faire encore.
L'occasion d'aller visiter. Voilà, merci pour cette actrice, Cicely Tyson, c'est ça?
Cicely Tyson, mais voilà. Oui, bon, paix à son âme. Tout
paix à son âme.
Oui, oui.
Merci Maurice Bolduc pour les musiques.
Merci à nos auditeurs. Et puis
merci à nos auditrices et auditeurs.
Et toi,
puis on vous dit.
Bonne semaine à toi.
Bon week-end à toutes et
voilà.
Tous.
Et on vous dit.
Bon week-end à toi aussi. Et à lundi.
À toi aussi, oui, à lundi. Ciao.
Au revoir.